Les As de la Copro, l'émission qui rebat les cartes de la copropriété, présentée par Gilles Frémont, président de l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Les As de la Copro, nouvelle version. Et donc on commence tout de suite avec la première séquence, mille millième l'invité.
Les As de la Copro, mille millième.
Alors, nouvel invité aujourd'hui de marque, comme d'habitude, c'est la symbolique de cette émission. Je reçois Zahir Kinou, président Foncia ADB. Bonjour Zahir.
Bonjour Gilles.
Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président de Foncia ADB depuis le 1er octobre 2024, donc c'est assez récent. Pendant 15 petites minutes, on va parler un peu de Foncia, des projets, des nouveautés. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter, voilà, dans les grandes lignes pour nos auditeurs, votre feuille de route, dans les grandes lignes, les grands projets de Foncia à moyen, à court terme, moyen terme, votre feuille de route.
Bah écoutez, Foncia, c'est déjà, on va le rappeler Gilles en quelques mots, plus de 70 000 immeubles en gestion de copropriété, 400 000 biens en gestion locative, à peu près 15 000 locations à l'année et 10 000 collaborateurs, collaboratrices qui nous accompagnent et qui travaillent pour la fidélisation de nos clients. Et peut-être le premier mot, c'est déjà, je profite de l'émission pour déjà les remercier parce qu'on en parlera peut-être plus tard dans le cadre des As de la Copro. On est sur un métier assez complexe que moi j'ai découvert il y a 8 ans lorsque j'ai rejoint le groupe. Les enjeux, il y en a 3. Le premier, c'est de retrouver la fidélisation de nos collaborateurs. Et plus que de la fidélisation, et on en parlera dans l'organisation que j'ai mis en place depuis le 1er octobre, c'est plutôt l'engagement. Donc chez Foncia, en 2025, on va parler de la culture de l'engagement, on va parler des valeurs humaines, on va parler d'un ancrage territorial pour être au plus près de nos collaborateurs. Et donc cette fidélisation de nos collaborateurs va nous permettre de fidéliser nos clients et de mieux les servir. Donc le premier postulat, le premier enjeu, c'est véritablement celui-là. Le deuxième, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, nous, on l'a vécu de l'intérieur. Moi, je l'ai vécu sur le terrain parce que j'étais sur la région sud-est il n'y a pas si longtemps, jusqu'au 1er octobre 2024, comme vous l'avez souligné. J'ai vécu ça difficilement depuis la période Covid et ça m'a amené à un constat assez fort qui consiste à dire que les fondamentaux de notre métier, la comptabilité mandant, tout le métier de la copropriété, le métier en tant que tel, qui se complexifie de mois en mois. On a eu la loi Allure il y a quelques années, la loi Elan assez récemment en 2018, la loi Climat et Résilience. On s'est lancé dans la rénovation énergétique. Donc, ce que j'ai demandé aux équipes, et moi je vais le suivre avec notre comité de direction évidemment, ce sont le retour à nos fondamentaux. Donc tout simplement remplir nos obligations qui sont écrites dans le mandat de syndic, donc tenir nos assemblées générales dans les 6 mois, sortir les arrêtés de compte,
la compta,
fini les comptes d'attente.
Qui a toujours fait la force de Foncia à la comptabilité.
Complètement. Donc vraiment revenir aux fondamentaux, en tout cas moi je vais m'y atteler. C'est l'un de nos gros objectifs chez Foncia, parce que post-Covid, et je suis pas là pour cacher les choses, on a pris un peu de retard. Voilà, donc ça c'est le sujet, et tout ça pour mieux servir nos clients. Ensuite, ça vous a pas échappé, on s'est lancé dans une stratégie plutôt digitale depuis quelques années, mais le digital, encore une fois, au service de l'humain, au service de nos clients. Donc, c'est notre capacité à toujours innover, se réinventer. On n'a pas de prétention, on n'a vraiment aucune prétention. Je n'irai pas jusqu'à vous dire qu'on est là pour inventer le métier, pas du tout. Le métier, il est ce qu'il est. On parlera du trinôme, du binôme tout à l'heure. Nous, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est qu'à un moment donné, quand à certains endroits, on reçoit 10, 15 000 appels par jour, quand le métier se complexifie, quand la Covid est passée par là et que l'être humain, finalement, se repose aussi des questions sur les valeurs, sur la notion de plaisir au travail, nous, en fait, on met tout ça en place pour vraiment mieux servir nos clients.
Donc, finir la transformation entamée...
Il y a 3 ans déjà, tout à fait.
Tout à fait. Donc, usages.
Tout à fait. On est là pour consolider finalement l'organisation que je vous évoquerai tout à l'heure, toujours continuer à la fois concilier notre efficience opérationnelle, supprimer finalement ces tâches sans valeur ajoutée, et pour un objectif toujours le même, mieux servir nos clients, mieux répondre à la demande. Et je terminerai sur un autre volet qui me paraît important. J'ai évoqué la loi climat et résilience. On a des équipes incroyables qui ont travaillé sur ce qui est notre cheval de bataille depuis déjà 2-3 ans, c'est la rénovation énergétique. Ce sont plus de 400 projets qui ont vu le jour, qui ont été finalisés assez récemment. Certains sont en cours de finalisation et ça représente plus de 28 000 logements rénovés. On avait signé un Green Deal en 2022, en mars 2022, dans lequel on s'était engagé sur 300 projets, on en a fait 400. Donc on n'a pas appris en marchant, on a appris en courant, avec des équipes incroyables. Alors, c'est une personne qui vient souvent ici, qui s'appelle Mathieu Mialaret, que vous connaissez bien.
Qui fait partie des as de la CoPro.
Que vous connaissez bien. Et donc ça, on va continuer, on va signer un autre Green Deal. J'étais avec la ministre du Logement lundi, à qui on a longuement évoqué le sujet. Donc ça fait partie un de nos valeurs. Donc redonner ces lettres de noblesse à la fois au métier, je l'évoquais, mais également au bâti. Et arrêter d'opposer systématiquement nos locataires et nos bailleurs.
Et montrer, en passant, le syndic comme un acteur positif et incontournable, avec un enjeu d'image de la profession derrière, puisque je rappelle que Foncia est le leader dans l'ADB. Vous avez à peu près 15% de marché en copropriété. La locomotive, voilà, donc tout ce que fait Foncia est imité, décrypté et parfois aussi par nos détracteurs, donc c'est important.
Complètement, on en a tous.
C'est important cette image, que tout le monde y concourt. Deuxième question, donc vous arrivez, vous êtes donc président niveau France, vous avez réorganisé un petit peu les régions, vous étiez, l'organigramme on va dire, vous étiez en région avec des présidents de région, vous fonctionnez autrement ?
Complètement Gilles, en fait lorsque j'ai rejoint l'entreprise en 2018, en janvier 2018, donc j'entame ma 8e année, je suis pas arrivé en octobre, juste pour préciser pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est vrai que historiquement Foncia a été organisé en 5 régions. Et puis on est passé à 4. Ces régions, pour l'avoir moi-même vécu sur la région sud-est, je crois que j'ai dû faire quelques 150 000 km en 2 ans et demi sur une quinzaine de métropoles. En fait, ça tient pas, Gilles. Ça tient pas quand je vous parle d'engagement, quand je vous parle de valeurs humaines, quand je vous parle de retour aux fondamentaux. On peut pas être à Nice à 8h du matin et à Montpellier à 15h pour être auprès des équipes, pour transmettre les valeurs, l'engagement, parler du métier, parler de choses assez simples, de modalités de travail, de notre nouvelle organisation, de notre stratégie, sur des périmètres aussi vastes.
Oui, donc plus de proximité.
Donc plus de proximité. Donc le premier objectif, c'était avoir plus de proximité pour nos collaborateurs. Donc on est passé de 4 à 8.
Donc 8, alors ça s'appelle comment, district ?
J'ai appelé ça des districts, ouais. On a essayé, au début on s'est ISO, nous, zone c'est quand même pas très joli. Donc on a 8 patrons de district aujourd'hui qui nous accompagnent, qui vont être plus ancrés dans nos territoires, aux quatre coins de la France. Je rappelle, Foncia c'est 10 000 collaborateurs, collaboratrices, répartis sur une cinquantaine de métropoles. Donc ça fait du monde. Donc il faut les accompagner, il faut être au plus près d'eux, donc être plus ancré auprès dans nos territoires, travailler sur ce que j'ai dit en préambule sur la formation, l'engagement, le management aussi. On a perdu aussi, je trouve, l'aspect managérial chez nous.
On va en parler vite fait du management.
On va en parler tout à l'heure.
Là, je voudrais vous poser une question.
Allez-y, Gilles.
Parce que c'est vrai que ça intéresse tout le monde.
Ouais.
Foncia a toujours eu un modèle, depuis Lorenzetti, de croissance externe importante, qui s'est accentué ces 5-6 dernières années avec les rachats, les fonds. Ça crée aussi parfois des difficultés d'intégration, les rachats, tous ces rachats de cabinets. Je crois que c'est à peu près une 60aine de rachats en 2023, il me semble, donc presque plus d'un par semaine. Là, aujourd'hui, 2025, les rachats de cabinets, stop ou encore, ou un peu moins, ou différemment ?
Alors peut-être, il y a plein de questions, donc je vais essayer d'être concis. De façon très synthétique, depuis 2018, le groupe Foncia a racheté 350 sociétés. Donc vous avez raison, ça a été colossal, ça a été compliqué pour nous en termes d'intégration. Vous avez raison de le souligner, Gilles. On n'a pas toujours eu des succès, on n'a pas toujours eu des victoires, il ne faut pas s'en cacher. Mais globalement, Globalement, je peux dire ici pour nos auditeurs, nos auditrices, j'ai la prétention d'avoir été sur l'entièreté de nos métropoles. Il n'y a pas une métropole en France chez Foncia où vous ne voyez pas 1, 2, 3, 4, 5, 10 collaborateurs qui sont aussi de reprise. Donc effectivement, on a eu l'appétit assez fort. Mais moi, j'ai la fierté de dire que, y compris dans les 8 patrons de district, je ne vais pas tous les nommer là, certains viendront peut-être à votre rencontre, 4 d'entre eux sont issus de rachat. Ce sont des cédants. Les cabinets que moi-même j'ai pu racheter dans le Sud-Est, les collaborateurs sont toujours présents. Mais effectivement, vous avez raison, la nature humaine est ainsi faite que lorsqu'on arrive chez Foncia, il y a une forme d'anxiété parce qu'on avait l'habitude de travailler d'une certaine manière. Et donc parfois, c'est compliqué de s'intégrer. Aujourd'hui, la stratégie 2024 et 2025, c'est pas d'arrêter la croissance externe. Voilà, sur un modèle économique qui a fait ses preuves déjà depuis avril 72, parce que le groupe va fêter ses 53 ans, donc cette année en avril, à l'époque de Jacky Lorenzetti, le modèle économique a été éprouvé. Nous ne sommes pas des philanthropes, il faut aussi le dire à nos auditeurs, à nos auditrices. Cela dit, aujourd'hui, on est sélectif. Donc primo, on va être sélectif. Deuxio, on ne va pas arrêter complètement la croissance externe, mais on va être à la fois sélectif pour les cédants qui nous sollicitent chaque semaine. En moyenne, on a une trentaine de sollicitations semaine. Lorsque j'étais dans le Sud-Est, j'avais 20 coups de fil par semaine, une dizaine de sollicitations sur LinkedIn. À la fin, je faisais à peine un rachat par mois. Voilà.
Donc plus sélectif, peut-être des cabinets moins gros ou avec des portefeuilles plus stables.
Complètement. Alors plus sélectif, et je ne peux pas vous dire que dans nos enjeux, on va remettre l'église au milieu du village sur les fondamentaux et en même temps aller racheter les sociétés, et ce qui a été le cas à un moment donné, il ne faut pas s'en cacher, où j'ai un an de retard de compta, les rapports bancaires qui ne sont pas faits, des fournisseurs, débiteurs, en veux-tu, en voilà, ça ne fonctionne plus. Donc on va être sélectif sur la qualité des rachats potentiels, donc des cibles potentielles, et on va également être sélectif, Gilles, sur les métropoles qui vont venir absorber ça. Donc c'est-à-dire qu'une métropole qui n'est pas en bonne santé, sur laquelle j'ai des postes vacants, etc., etc., je ne vais pas aller la mettre plus en difficulté parce que j'ai eu une dizaine de cibles qui m'ont contacté. Donc ça, c'est terminé. Donc en fait, la sélection, elle se fera à la fois sur nos cibles, mais également sur la qualité et la capacité de nos équipes en place à intégrer cela et également... comme maintenant je suis également patron du siège, également notre capacité depuis le siège à accompagner, vous connaissez la pépinière chez nous, donc est-ce que j'ai suffisamment de pépins pour aller travailler sur les mandats, aller analyser tout ça, accompagner les nouveaux gestionnaires que nous accueillons en formation, les accompagner en assemblée générale, pour aussi présenter notre mandat de syndic foncier, parce que ça passe par là, et pour cela, il faut les former, Gilles.
Alors, donc parfait, c'est très clair, je vous remercie. Ça m'amène à la dernière question, il nous reste 2 minutes, sur le management. Sur le management des équipes, l'intégration. Donc les rachats, ça nécessite effectivement une intégration pour rassurer les collaborateurs rachetés, entre guillemets. Après, encore faut-il les garder. Donc, on parle de management et d'organisation. Vous continuez de faire évoluer l'organisation, on va dire, traditionnelle du binôme. Aujourd'hui, c'est très féminisé. On le voit dans nos enquêtes. Tout ça. Donc, les assistantes, vous les redéployez différemment par le pôle de service. Terminer le binôme ?
Alors, terminer, non. Terminer, non. C'est pas vrai. Ce serait vous mentir que de dire que c'est complètement terminé. J'étais encore cette semaine à Maison Alfort sur une métropole qui s'appelle Val-de-Marne. J'ai rencontré plein d'assistantes en GL, plein d'assistantes en copro. Voilà, la semaine dernière, j'étais à Corbeil-Essonne.
Pour l'instant, on garde.
Et donc, pour l'instant, on a évidemment lancé une stratégie qui vise à mettre en place des services clients, mais également des pôles d'expertise pour toutes les raisons de complexité assez folle d'ailleurs de notre métier, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, le métier se complexifie jour en jour. On a quand même, il faut le rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, à certains endroits en France, un volume d'appels téléphoniques qui est juste colossal. À Marseille, où j'étais il n'y a pas si longtemps, mais à plein d'endroits en France, on reçoit plus d'appels que les pompiers et le SAMU. Donc à un moment donné, le binôme y trouve certaines limites, et c'est pour ça qu'on a mis ça en place, pour améliorer notre joignabilité, pour répondre tout simplement, Gilles, à nos clients, pour aussi soulager les gestionnaires sur ce qu'on a appelé des questions, on va dire, de niveau 1, sur est-ce que le chèque est arrivé, est-ce qu'on l'a encaissé, on ne l'a pas encaissé, le fournisseur qui relance, etc. Aujourd'hui, 95% de nos métropoles sont déployées sur les services clients, qui sont colossales. Et donc, ces assistantes-là, à un moment donné, elles évoluent soit en tant que gestionnaires, en gestion locative, comme en copropriété, soit au sein du service client. Donc, en fait, on n'est pas sur, on va dire, une vision complètement arrêtée, bloquée sur la fin des trinômes que j'ai connu en arrivant chez Fonsa, où vous le citiez à l'instant, la fin des binômes, mais on est plutôt sur un modèle complètement agile, sur lequel, encore une fois, je l'ai rappelé dans notre engagement, c'est de répondre à nos clients et de les servir. Donc la mise en place des services clients, c'est pas pour que ce soit la fin des binômes et de les assistantes, mais c'est simplement pour répondre à nos clients.
L'essentiel, c'est que ça marche, bien sûr.
Exactement, exactement, Gilles.
Zahir Kenouch, je vous remercie beaucoup, on arrive au terme de cette
merci
émission.
À vous, Gilles, merci de m'avoir reçu.
Je pense qu'on a, fait un bon tour, on a été complet, j'espère, pour nos auditeurs, auditrices, et puis tous les collaborateurs Foncia hein, qui vont continuer de vous, découvrir. Je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes président Foncia ADB depuis le 1er octobre 2024, mais présent, bien sûr, chez Foncia depuis 2018. Donc, ça commence à faire. Et voilà. Bah, écoutez, bonne chance, bon courage pour votre...
merci beaucoup.
Pour vos projets et puis bah, peut-être à une prochaine.
À bientôt.
Merci beaucoup et on passe à la séquence suivante, les As de la CoPro, les experts.
Les As de la CoPro, l'analyse des experts.
Vous êtes toujours dans l'émission Les As de la CoPro, deuxième séquence, l'analyse des experts. Alors aujourd'hui, j'ai Sabrina Meghetti. Bonjour Sabrina.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Et Alexis de Coster.
Bonjour Gilles.
Bonjour Alexis. Alors comme vous le savez, mon équipe des As de la CoPro est coupée en deux maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir vous, mais prochaine fois, vous aurez Pierre-Edouard et Mathieu, bien sûr, où on va mélanger, hein, on va faire des mélanges. Avec vous, sur cette séquence, on va parler de la loi Lemeur qui est sortie le 19 novembre 2024, donc tout récent. C'est sur les locations touristiques, meublées, Airbnb, hein, pour faire court. Il y a des impacts en copropriété. On a 10 minutes. Quels sont ces impacts concrètement ? Alexis.
Alors, comme vous venez de le dire, effectivement, cette loi, alors principalement, c'était des mesures relatives à la fiscalité des bailleurs, mais on a plusieurs dispositions touchent la copropriété, et notamment avec des modifications de la loi du 10 juillet 1965. Alors, il y a deux modifications d'articles, et puis il y a un troisième volet qu'on verra tout à l'heure. La première, c'est que dorénavant, donc dès le lendemain hein, de la publication de la loi, pour tous les nouveaux règlements de copropriété, il devrait y avoir de manière très explicite mention de l'autorisation ou de l'interdiction procéder à des locations de meublés de tourisme.
Pour les nouveaux règlements.
Donc pour tout ce qui est nouveaux règlements de copropriété, donc les futures constructions.
Comme ça, c'est clair. Autorisé ou pas autorisé.
On autorise ou on n'autorise pas. Alors, ça voudra dire aussi que, et ça, au titre de des immeubles neufs qui seront mis sous gestion, peut-être effectivement un travail préalable avec la promotion, les acteurs de la promotion immobilière, parce que
qui préviennent l'acheteur.
D'une part, qui préviennent l'acheteur, mais aussi le futur gérant. Et peut-être que le syndic peut aussi être une force de proposition, parce que, compte tenu des différents secteurs géographiques en France, on peut avoir, ci et là, des situations complètement différentes, pour deux typologies d'immeubles différents. Donc je pense que ça mérite
réflexion. Cette clause, je fais une petite parenthèse, cette clause faudra quand même qu'elle soit justifiée par la destination de l'immeuble, toujours article 8
toujours.
De la loi 65.
C'est toujours la destination de l'immeuble. Mais pour autant, on ne pourra pas expliciter, ça ne peut pas être blanc ou noir, et de manière systématique, quel que soit le territoire. C'est-à-dire que comme on a des spécificités territoriales, même au sein des villes, il faudra, je pense, pousser l'analyse assez loin pour déterminer si oui ou non.
C'est pas juste au bon vouloir du notaire ou du promoteur.
Les conséquences derrière peut-être intéressantes. Et effectivement, même au titre de la mise en marché des appartements, il sera peut-être différent demain de vendre un appartement dans lequel la copropriété a décidé d'interdire, enfin, ou le rédacteur a décidé d'interdire purement et simplement la location meublée. Peut-être que demain, ces appartements-là, on pourrait estimer que peuvent être vendus, pourquoi pas, plus cher qu'un appartement.
C'est pour ça qu'il faut que ce soit parfaitement en phase avec la destination de l'immeuble, qui comprend ses caractéristiques sociales, architecturales et géographiques.
Donc on reviendra un petit peu juste après sur le détail. Et puis la deuxième modification est relative à la possibilité dorénavant de modifier le règlement de copropriété qui concerne l'interdiction de la location des lots à usage d'habitation autres que ceux constituant la résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 89, en meublé de tourisme. Et donc la modification prévue au D du nouvel article 26 ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
Là, je vois que vous êtes obligé de lire, là.
Oui.
Parce qu'il faut s'accrocher quand même pour la lire, la condition.
Il faut prendre son souffle, et effectivement, puisque la double négation...
À la négative, en plus.
La double négative est toujours assez, assez compliquée à comprendre à première lecture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, concrètement ? C'est-à-dire que, comment on peut interpréter tout bonnement cet article ? Une destination d'habitation simplement bourgeoise, des lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale, interdit par définition toute activité commerciale. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc ça concerne pas tous les logements, hein. Ça ne concernera que, la non-résidence principale. D'accord.
Donc, oui, déjà, premier filtre.
Et puis, il faut que le règlement de copropriété interdise déjà toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale. Et donc, à destination bourgeoise. Alors, pareil, la rédaction, les rédacteurs, on parle de destination. Alors moi, ça m'affecte toujours, parce que la destination, pour moi, c'est l'immeuble. Mmh. Et à l'échelle du lot, on devrait pouvoir d'agir d'usage ou d'affectation. Donc c'est vrai que la rédaction est un peu maladroite. Et effectivement, parler d'usage ou d'affectation, ça aurait été préférable. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour un syndic, le gestionnaire, il est préférable qu'il fasse... une réunion, je pense, préalable avec son conseil syndical, hein, pour déterminer si oui ou non le sujet se pose au sein de l'immeuble, puisque effectivement, ce sera un projet de résolution qui sera porté à l'ordre du jour pour pouvoir modifier le règlement de copropriété. Mais pour modifier le règlement de copropriété, encore faut-il bien appréhender le règlement de copropriété existant et bien l'analyser. Et ensuite, porter la question à l'ordre du jour en concertation avec son conseil syndical.
Oui, parce que la nouveauté, c'est qu'on peut modifier le règlement de copropriété à la majorité de l'article 26.
Puisqu'avant, effectivement, toute modification finalement de destination de l'immeuble nécessitait de l'unanimité. Donc en fait, le sujet était alors un petit peu tordu par les parlementaires. Est-ce que effectivement, puisqu'il n'y a pas eu de censure, hein, du Conseil constitutionnel, alors est-ce qu'on peut estimer que demain il y aura une question prioritaire de constitutionnalité au titre d'un contentieux ? Ça, l'avenir nous le dira. On n'a pas de boule de cristal, mais c'est vrai que ça peut paraître un petit peu choquant, puisque effectivement, l'unanimité, hein, le rappel de la loi de 65, c'était un fort équilibre entre la collectivité et puis le droit individuel de propriété. Là, on casse un petit peu le pouvoir absolu de son droit de propriété sur son appartement.
Oui, puis c'était l'unanimité, même pire, c'était l'accord individuel de tous les copros pour changer la jouissance et la destination de leur lot, l'article 26 petit
26,
c.
Oui, hein, petit ne c. peut être à quel titre que ce soit.
À quelques majorités que ce soit.
Voilà, il y a quelques majorités.
Donc c'était pire que l'unanimité. En AG, il fallait avoir l'accord individuel de chaque copro, même hors AG. Donc là, on peut... une diminution de la valeur de leur lot quand même, hein,
La question, je pense, certainement se posera. Je pense qu'il y aura, comme souvent, il y aura certainement des contentieux. En tout cas, ce qu'on peut dire à tous les gestionnaires de copropriété, c'est qu'effectivement, évidemment, pas poser cette question de manière systématique, hein, il ne faut pas que ce soit un automatisme, il faut que ce soit bien mûri, une bonne analyse du règlement de copropriété. On regarde avec le conseil syndical s'il est opportun ou pas de porter la question à l'ordre du jour. Alors la question se porte moins si effectivement, préalablement, il y a déjà cette problématique de nuisance. Je pense que là, effectivement, il y aura le gestionnaire et le syndic sera très sollicité par notamment son conseil syndical pour porter la question à l'ordre du jour.
Bah, c'est clair. Autre impact de la loi Le Maire.
Le troisième point, c'est une modification de l'article 9-2. Hein, puisque on a modifié donc l'article 9, hein, c'était relatif aux articles qui sont relatifs aux parties notamment privatives et les règlements de copropriété. On nous dit article 9-2 que lorsque un lot de copropriété fait l'objet de la déclaration prévue à l'article L324 du code du tourisme, hein, donc c'est-à-dire qu'effectivement il y a du meublé touristique, le copropriétaire ou par son intermédiaire le locataire qui a été autorisé en informe le syndic. Et donc un point d'information par le syndic relatif à l'activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Information.
Ça veut dire qu'effectivement, on a une résolution, c'est pas un point voté, où on posera la question information relative à la présence de location meublée.
Sans vote.
Y a pas point d'information. Point d'information égale non vote. Information relative à la location meublée dans l'immeuble. Alors potentiellement, il n'y a pas de critères spécifiques ou d'informations précises, donc on peut mettre le numéro de lot ou éventuellement le nom du copropriétaire. Je pense que le RGPD, il n'y a pas de problématique particulière à mettre le nom et le numéro du lot. Encore faut-il qu'effectivement, on soit informé. La loi ne dit rien si le propriétaire ou le locataire ne nous informe pas. Alors la question pourrait se poser, se dire, oui, mais moi je syndic, je sais que, mais on ne me l'a pas dit. Donc je pense que là, la meilleure chose à faire, c'est qu'en tant que syndic, si on est au courant que dans tel ou tel appartement, il y a cette activité, mais que le propriétaire ou le locataire ne nous a pas prévenu, je pense qu'il est de bon ton de lui notifier son obligation de faire pour qu'effectivement, il nous informe et qu'on puisse le porter à l'ordre du jour.
De l'informer, de nous informer.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
merci Alexis. Rapidement, en un mot, Sabrina. On vous a demandé déjà là, de mettre à l'ordre du jour moi, on m'a déjà demandé, hein, j'en ai trois.
Oui,
c'est les immeubles où il y a des nuisances.
Effectivement, donc on est concernés, on est tous concernés, je pense, syndic, à un moment donné, par des personnes qui nous disent, bah voilà, aujourd'hui, on a une activité type Airbnb dans l'immeuble. Est-ce que vous pouvez agir? Car on rencontre des nuisances dans les parties communes, notamment. C'est essentiellement pour ces raisons-là, des va-et-vient, du non-respect des parties communes, des dégradations, donc des choses qui
moi,
coûtent.
J'ai de la prostitution. Hein.
Alors, on peut avoir aussi des activités qui ne sont pas recensées dans les activités commerciales.
Parce que le Airbnb à Paris n'est pas forcément le même Airbnb à Saint-Malo, qu'au bord de la mer, mais
exactement.
À Paris, c'est souvent ces problématiques.
Alors c'est ça, donc cette loi vient quand même répondre et nous donne au moins un cadre à nous en tant que syndic et nous permet au moins d'agir auprès des copropriétaires, de les informer, de leur dire effectivement la possibilité d'analyse que vient de nous dire Alexis, l'analyse du règlement de copropriété, de pouvoir porter, si on peut, ce point à l'ordre du jour des assemblées générales. Mais pour répondre à la question de l'intérêt de nos copropriétaires, j'ai vraiment les deux sons de cloche. J'ai ceux qui sont intéressés parce qu'ils vivent dans cet immeuble, ils occupent cet immeuble et donc ils veulent pouvoir jouir aussi de leur immeuble en toute tranquillité.
Immeuble résidentiel, où on
résidentiel
connaît son voisin.
Et on a aussi des copropriétaires qui s'inquiètent de cette mesure parce qu'ils ont investi dans des immeubles justement en plein centre de Paris ou dans d'autres villes ou à la montagne et ils souhaitent tout simplement pouvoir aussi jouir, user et disposer de leur logement comme ils l'entendent. Et donc on vient, c'est ce que expliquait Alexis juste avant, on vient quand même aborder ce droit de la propriété et donc au final peut-être limiter l'usage. On sait qu'aujourd'hui il y a aussi un pouvoir qui a été donné aux mairies, aux communes pour pouvoir agir sur ce type de location meublée de tourisme. Eh bien il y a aussi cette inquiétude qui est portée sur l'ensemble des copropriétés.
Alors pareil, on verra l'impact, c'est tout nouveau, donc moi j'ai une résolution type, donc dès qu'on me demande, hop, je dégaine ma résolution, je mets ça à l'ordre du jour et puis après ça les oblige aussi à eux à prendre leur responsabilité. Au moins, c'est clair. C'est s'ils votent oui ou s'ils votent non. Après, on sera moins embêtés, nous, en tant que syndic, dans les cas de nuisance, parce que c'est vrai qu'on était toujours embêtés pour savoir est-ce que c'est commercial, pas commercial. Alors, la Cour de cassation venait de dire, on en avait déjà parlé sur le plateau, que l'activité Airbnb était une activité civile d'habitation, sauf s'il y avait trois critères d'hôtellerie sur les cinq, qu'on n'a jamais. Donc, c'était de l'activité civile. Et finalement, la loi Lemeur vient un peu percuter, remettre en cause, voire censurer cet arrêt de la Cour de cassation d'une certaine manière. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus clair.
Mais je pense que, je ne vais pas parler d'artifice, mais il n'y a pas véritablement, à mon sens, de solution. Moi, la seule solution que je trouve à y voir demain, alors on ne réglera jamais le problème des nuisances, sauf demain à construire des immeubles qui seraient 100% dédiés à faire du Airbnb. Il y en a au Québec et au Canada, je crois qu'ils font, ils font des promotions immobilières qui sont entièrement dédiées. Ça, c'est peut-être un volet. Mais pour ce qui concerne nos immeubles classiques de copropriété, la moins mauvaise solution que j'ai trouvée, ce serait un partage de sort. C'est-à-dire que le syndicat des copropriétaires aurait potentiellement un droit de péage et pourrait récupérer une partie des sommes encaissées, un petit forfait ou une petite indemnité compensatrice des futurs des futurs. Alors je sais qu'effectivement il y a plein de jurisprudence sur les fameuses clauses pénales, c'est pas bien, il faut pas, mais j'ai pas trouvé d'autre solution que celle-ci.
Il faut changer l'objet du syndicat à l'article 14, parce que le syndicat n'a pas le droit de faire du business, hein, normalement.
mais voilà, ça permettrait de contribuer un petit peu à la problématique des nuisances sur le sujet, au moins une réparation, même si on ne peut pas se faire justice nous-mêmes, mais effectivement on verra un petit peu les impacts de cette loi.
C'est bien d'être dans la prospection, on est là aussi les As de la Copro pour mettre des idées sur la table. Je vous remercie et on passe tout de suite à la dernière séquence, les questions Copro.
Les As de la Copro, les questions Copro.
Bonjour, j'habite dans un immeuble à Nantes. Nous avons un copropriétaire dans l'immeuble qui est un très mauvais payeur et qui nous doit la somme de 5 000 € pour ses charges. En même temps, donc, ce copropriétaire a eu un dégât des eaux chez lui et au niveau de l'assurance de l'immeuble, nous devons recevoir 11 000 € pour ces dommages. La question est la suivante, est-ce que le syndic qui va recevoir donc les 11 000 € peut faire une compensation et garder la différence pour remettre à zéro le compteur du copropriétaire qui est débiteur? Donc merci aux As de la Copro pour leur éclairage.
Ok, bon donc Sabrina, la question elle est simple, j'ai un copropriétaire qui doit 5 000 €, il doit 5 000 €, je dois lui verser une indemnité d'assurance parce que ça passe par l'assurance donc ça de l'immeuble, ça lui revient 11 000 €, je fais une compensation, je garde la différence, je me fais justice.
Alors,
possible ou pas possible?
Alors j'ai envie de dire qu'on aurait tous envie de se faire justice, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Alors si on se place du point de vue peut-être de la compensation des dettes, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on a un copropriétaire qui doit 5 000 € de charges au syndicat des copropriétaires, et on a une indemnité d'assurance qui est versée certes par l'assurance de l'immeuble, mais qui revient directement au copropriétaire. En tout cas, c'est la question qui nous est posée. Est-ce que je peux juste compenser? Est-ce que moi je peux me faire autorité seule et puis dire, bah voilà, je compense, finalement vous me devez 5 000 €, je vais vous en verser 11 000. Bon, bah, on va compenser, je vous verserai que 6 000. On aurait tendance à vouloir faire cela. Donc, on parlera après peut-être des pratiques. Exactement. Dans le Code civil, il y a l'article effectivement 1347 qui parle d'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux débiteurs. Ça peut être effectivement dans ce cadre-là qu'on s'imagine pouvoir compenser ce type de dette. Toutefois, il y a aussi la réciprocité de la dette, c'est-à-dire qu'il faut que le débiteur soit dans un sens comme dans un autre, le débiteur et le créancier soient les mêmes. Donc là, dans ce cas de figure, typiquement, on a le copropriétaire qui doit 5 000 € au syndicat des copropriétaires. Mmh. Toutefois, c'est l'assurance qui doit donc 11 000 €, pas au syndicat des copropriétaires, mais au copropriétaire lui-même. Pardon, j'étais loin du micro, donc on ne m'entendait pas. Donc, effectivement, donc dans ce cas de figure, la réciprocité ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même débiteur d'un côté comme de l'autre. Donc, on aurait envie, effectivement, comme on l'a dit au départ, de se dire bah, on compense ces deux dettes. Eh bien, on ne peut pas le faire. Il y a aussi autre chose qui vient nous l'interdire, c'est le Code des assurances. Le Code des assurances vient préciser clairement que, dans son article L121-12, que l'indemnité doit être versée au bénéficiaire effectif du dommage. Et pour cause, le bénéficiaire du dommage a subi un dommage. Donc ça vient réparer son dommage. Il va devoir engager, logiquement, des travaux de réparation dans son lot. En tout cas, c'est comme ça que l'assurance l'aura défini. Dans ces conditions-là, il va falloir verser ces 11 000 € au copropriétaire. Donc je dirais, pour quand on analyse un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, je dirais qu'il y a deux choses. Bah, déjà, le copropriétaire débiteur, le syndic, lui, bah, j'ose espérer, et en tout cas, si ce n'est pas le cas, je lui conseille vivement d'avoir engagé une procédure de recouvrement classique pour les charges qui lui sont dues. Et peut-être que dans un second temps, si je perçois une indemnité de 11 000 € à reverser à ce copropriétaire, eh bien de prendre contact, attache avec lui, de lui proposer peut-être un protocole d'accord transactionnel, s'il en est d'accord, mais il faut obtenir son accord sur ce type de compensation.
La voie de la sagesse.
Ça, c'est la voie de la sagesse. En pratique, parce que je sais que Gilles, vous allez me demander si en pratique, est-ce qu'on agit comme ça? En pratique, il arrive que ces compensations soient faites, mais attention. Attention à cela, parce que c'est de la rétention abusive, en fait, d'une somme.
On fait, donc, on voit ce qui se passe.
Voilà, il y a certains syndics qui prennent le pli de
le
dire...
Le gestionnaire est quelqu'un de très pragmatique.
Pragmatique.
Qui défend les intérêts du syndicat des copropriétaires.
Tout à fait. Mais ne pas se mettre non plus en danger. Il pourra engager une procédure. Évidemment, quelqu'un qui est déjà en défaut, peut-être qu'il le fera un peu moins, se sentira certainement moins à l'aise pour aller attaquer le syndicat des copropriétaires et son syndic pour avoir retenu ces sommes. Donc j'entends qu'en pratique, on l'a tous fait, on le fait tous. Attention tout de même, voilà la règle qui vous est donnée. Toutefois, rien ne nous empêche de prendre attache avec ce copropriétaire et lui proposer cette compensation.
Il y a un cas dans la loi de 65 où on peut faire une compensation, c'est à l'article 16-1 pour les ventes de parties communes.
Oui,
et là, il est bien indiqué dans la loi, donc c'est expressément prévu par la loi, que lorsqu'on vend une partie commune, la quote-part qui revient à chaque copropriétaire, on peut déduire.
Tout à fait.
Les dettes du copropriétaire avant de lui reverser la quote-part qui lui revient sur ce prix de vente de bout de couloir, de WC commun, etc. Mais c'est un cas qui est expressément prévu par la loi. Et d'ailleurs, ça a été rajouté à la loi Elan, je crois de mémoire, ce petit cas où on peut faire une compensation.
Là, on peut faire une compensation, mais en plus, cet exemple est parfait parce que pour le coup, le débiteur est le même. Donc, on parle bien des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires. Là, on a l'assurance qui entre en jeu. Donc, on a un tiers qui verse une somme et le code des assurances est très clair. Il y a aussi un autre cas particulier, et je crois que c'est le seul, c'est si le contrat d'assurance prévoit des dispositions contraires, auquel cas on pourrait disposer de ces fonds pour le compte du syndicat des copropriétaires et le reverser sur le compte du copropriétaire. Mais c'est des cas très rares. En tout cas, moi, je ne l'ai pas lu dans des contrats que j'ai pu contrôler à ce jour. Voilà.
Merci Sabrina.
Je vous en prie.
C'est très clair et on passe à la deuxième question du copropriétaire.
Bonjour, je suis copropriétaire dans un petit immeuble à Bordeaux. Notre immeuble présente pas mal de désordres et nous avons reçu un arrêté de péril de la mairie. Nous sommes pas mal inquiets. Que doit faire notre syndic dans ce cas de figure? Je vous remercie.
Arrêté de péril sur un immeuble, quel est le rôle du syndic, Alexis?
Alors, le syndic, dans ce cas de figure, évidemment, a un rôle central puisqu'il représente les intérêts du syndicat des copropriétaires. Alors, il faut savoir qu'il y a une nouvelle appellation depuis janvier 2001. L'arrêté de péril ordinaire... 2021, pardon. L'arrêté de péril ordinaire devient un arrêté de mise en sécurité et l'arrêté de péril imminent devient la procédure d'urgence de mise en sécurité. Alors, il y a un changement un petit peu de sémantique sur le sujet. Alors, ce sont toutes les dispositions des articles L511-1 jusqu'à 22 du Code de la construction. Donc, on l'aura compris, l'arrêté d'urgence, hein, c'est lorsque le danger est immédiat, et l'arrêté de mise en sécurité, c'est lorsque le danger n'est pas encore immédiat, mais que, effectivement, ça nécessite, de manière impérieuse, malgré tout, la réalisation de travaux. Alors, je vais un peu procéder, alors je ne vais pas aller rentrer trop dans le détail, parce que c'est assez technique, mais de manière générale, sur les acteurs, sur les différents acteurs, et qui prononce cet arrêté. Alors, déjà, toute personne peut déjà signaler un problème de sécurité qui concerne un bâtiment. Ça, c'est un locataire ou un propriétaire, voire potentiellement des tiers, hein, pourrait très très bien signaler des éléments sur le bâtiment. Mais évidemment, il en revient en général au maire ou l'établissement public, de faire constater les faits spécifiquement avec les services municipaux compétents. Donc si la sécurité des habitants ou des tiers n'est pas menacée de façon immédiate, le maire adresse un courrier au syndic de copropriété qui indique qu'une procédure de mise en sécurité pourrait être engagée. Donc on le verra après sur les actions du syndic. Et deuxièmement, si la sécurité des habitants ou des tiers est menacée de façon immédiate, le maire peut saisir directement le tribunal administratif afin qu'un expert soit désigné. Et ensuite, ce dernier interviendra dans le cadre de l'urgence et de manière immédiate et potentiellement sans convoi. Et le maire disposera effectivement de la possibilité d'opérer cet arrêté sans contradictoire, sans convoquer le syndic. Il faut savoir que aussi depuis notamment Elan, avec le plan pluriannuel de travaux, alors je ne pense pas qu'il y ait déjà des cas qui sont arrivés, quoique peut-être que si, c'est que dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police et de sécurité et de salubrité des immeubles, dorénavant, hein, l'autorité administrative compétente peut à tout moment aujourd'hui demander au syndic de lui transmettre les plans pluriannuels de travaux. Puisqu'effectivement, pour vérifier s'il y a des travaux de programmés pour garantir la sauvegarde de l'immeuble.
Alors justement, les réflexes du syndic.
Alors, les réflexes du syndic, c'est que dès qu'on reçoit les éléments de la mairie. Alors, puisque effectivement, le syndic est généralement principalement le premier destinataire de cet arrêté de mise en sécurité. Donc, première chose à faire, le syndic a l'obligation d'informer immédiatement, c'est vraiment sans délai, l'ensemble des copropriétaires de l'existence de l'arrêté.
Il leur envoie tous la copie de l'arrêté.
La copie de l'arrêté, notifiée en recommandé, par mail, par tout moyen, la connaissance de cet arrêté. Alors ensuite, il faut constater que le défaut de transmission. Alors, il y a un... même si le syndic ne transmet pas de manière immédiate l'information au copropriétaire, ça ne remet pas en cause le point de départ, puisque le syndicat va avoir 2 mois pour formuler des observations sur certains cas. Hein, c'est le R511-511-10 qui dispose que le syndic dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 2 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente. Donc les observations, c'est quoi ? C'est les observations sur le fait que potentiellement il y a peut-être déjà une programmation de travaux à réaliser dans les semaines, voire le mois à venir. Donc en tant que syndic, il faut analyser la situation, prendre les mesures d'urgence, donc on évalue les risques.
Les mesures conservatoires. Les étais, on envoie l'architecte.
On peut aussi solliciter l'ANA pour récupérer des subventions, puisque c'est possible. Hein, L'ANA peut transmettre un certain nombre de subventions. On organise l'Assemblée générale pour effectivement discuter des travaux à réaliser. À l'ordre du jour, on propose les résolutions de travaux, sachant que c'est de l'article 24, très spécifiquement.
Donc, ça veut dire que préalablement, le syndic a mandaté l'architecte pour qu'il fasse un descriptif, un appel d'offres, avec les devis.
Classique, finalement, une procédure classique de travaux. Alors, il se peut qu'au titre de cet arrêté, il puisse y avoir parfois des défaillances. Alors, des défaillances d'un ou plusieurs copropriétaires. Donc, lorsque l'inexécution des travaux et des mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité résulte de la défaillance d'un ou plusieurs copropriétaires, le syndic informe l'autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises, parce que ça peut arriver.
C'est souvent le cas. Hein.
Sont réputés défaillants, donc on nous dit, c'est en général la défaillance.
C'est pour ça qu'on s'est retrouvé en
mise en demeure. Bah, en général, oui. Lorsque l'arrêté est relatif à des parties communes, parce que parfois un arrêté peut cibler les parties communes uniquement, à l'expiration du délai qui sera fixé par ce même arrêté, et si les mesures n'ont pas été réalisées, les copropriétaires sont redevables du paiement potentiellement d'une astreinte. C'est-à-dire que l'autorité administrative peut affecter une astreinte, en général à 1 000 euros. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants, puisque au titre du texte et des différents textes, l'inexécution, elle peut résulter soit de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires. Il se peut aussi qu'effectivement, ça, on a des cas où, malgré la convocation de l'Assemblée Générale, le syndicat se prononce par la négative. Dans ce cas, le montant de l'astreinte est notifié par l'arrêté de l'autorité publique à chacun des copropriétaires. Et puis on a le second cas où c'est le syndic de copropriété atteste que l'inexécution des travaux prescrits résulte de la défaillance de certains copropriétaires pas avoir répondu, par exemple, aux appels de fonds. Donc cette astreinte, elle est liquide et exigible. Et effectivement, ce sont des points extrêmement importants, puisque ces deux astreintes peuvent être cumulatives. C'est-à-dire qu'à la fois une astreinte au titre des parties privatives, plus une astreinte au titre des parties communes. Donc le rôle du syndic est central pour faire en sorte que, effectivement, en communiquant ces catégories, que les travaux se réalisent. Donc, effectivement,
article
comme
24,
article 24, classiquement.
C'est des travaux d'entretien, article 24.
Travaux d'entretien, article 24. Il va coordonner les travaux avec la présence d'un maître d'œuvre. Et puis, il fait le lien avec les différentes autorités.
Donc, communication de crise aussi pour le syndic.
Communication de crise.
Du début à la fin.
De toute façon, oui, puisque, effectivement, là, il y a une sensibilité extrêmement forte sur le sujet.
Faire des réunions d'information, répondre aux copropriétaires individuellement quand ils vous appellent.
Exactement, puisqu'effectivement, c'est un certain nombre de conséquences, notamment, puisque en fonction des mesures, notamment d'urgence, typiquement pour les copropriétaires bailleurs, il faut reloger le locataire, suspension du paiement des loyers, donc c'est toute une organisation à
réaliser.
Oui,
quand on a un sinistre incendie, un peu de la même manière.
Exactement la même chose.
Et à la fin,
il faut, toujours avec les autorités, il faut constater pour pouvoir lever l'arrêté. Donc ça, c'est la constatation qui doit être établie par l'autorité administrative pour attester de la réalisation des travaux. Et à cette fin, donc, la constatation peut se faire par tout moyen, sur place, mais c'est l'autorité administrative qui va pouvoir lever l'arrêté qu'elle a...
Donc un arrêté de main levée.
De main levée.
Ça, c'est le but, c'est l'objectif ultime pour le syndic.
Pour le syndic. Et donc, effectivement, ce qui fait dire qu'effectivement... comme tout au titre de sa mission, je dirais classique et globale, le syndic est un personnel central de la gestion de crise ces arrêtés.
Il a une mission de conservation et d'entretien de l'immeuble. Zahir, en un mot pour terminer, vous me disiez que vous en aviez connu quelques-uns des arrêtés de péril quand vous étiez à Marseille.
Un peu moins de 200, oui. 200 immeubles.
Gestion de crise, là.
Gestion de crise et plus que la gestion de crise, la mise en place d'un pôle habitat dégradé et d'un pôle sécurité au sein de la métropole marseillaise en lien avec tous les organes, hein, Alexis, que vous venez de décrire, et avec un véritable mode projet sur ces sujets-là, parce que nos copropriétaires, donc du coup, vous l'avez rappelé, mais voilà, pas plus, pas moins, mais voilà, une vraie expertise et une vingtaine de personnes à Marseille aujourd'hui qui s'occupent de ça.
Très bien, comme ça le syndic ne subit pas la situation,
exactement,
il la domine.
Exactement.
C'est ce qu'on attend des professionnels, c'est ce que les copropriétaires attendent des professionnels. Je vous remercie à tous, Alexis, Sabrina, Zahir, pour votre participation. Et on arrive au terme de cette émission. Je vous dis à la prochaine.
À la prochaine, continue. Merci.
C'est tous les
merci.
Deux mois maintenant, hein, je le rappelle. Allez, ciao.
Les As de la CoPro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.